Il paraît que nous possédions une horloge biologique interne qui détermine les périodes d'éveil et de sommeil. Dormir est une activité naturelle, mais relativement complexe. C'est au début de la nuit que le sommeil est le plus profond, et ensuite viennent les rêves, qui, comme chacun sait, peuvent être extrêmement bizarres. Salomon écrit que les rêves naissent de la multitude des occupations. Dans l'Antiquité, et même encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que certains rêves sont prémonitoires. Il est vrai qu'avec les visions, ils sont l'un des moyens que Dieu utilise pour révéler l'avenir à ses prophètes. Je continue de lire dans le premier chapitre du livre de Daniel. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens, c'est-à-dire Daniel, Ananias, Michaël et Azaria, le savoir et la compréhension de toute la littérature de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Ces jeunes Israélites ont appris les arts et les sciences et probablement ont assimilé toute la connaissance que les Babyloniens et les Chaldéens possèdent sur le monde. Aussi bien physique que spirituel, leur capacité de raisonnement logique et leur discernement sont hors du commun, parce que surnaturels. Tout comme Joseph avant lui, Daniel est capable de donner le sens d'un rêve. De toute évidence, Daniel a étudié des pratiques païennes, mais sa faculté de distinguer le vrai du faux et d'interpréter des songes et des visions sont des dons de Dieu, qui est à distinguer du savoir occulte babylonien dans les domaines de la divination, l'astrologie ou la nécromancie, qui sont des pratiques strictement interdites par la loi de Moïse. Je continue. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabucodonosor. Après des études qui s'étendirent sur 3 ans, Daniel et ses 3 amis sont introduits dans la salle du trône afin que Nabucodonosor puisse les examiner de près. Ce n'est pas par hasard que ce despote a réussi à conquérir la Syrie et l'Égypte, car il est intelligent et rusé, et il sait fort bien que ce n'est pas par la force qu'il obtiendra des conseillers de valeur. Il gagne l'allégeance de ses serviteurs en les traitant comme des rois et en leur donnant la meilleure éducation possible. Je continue. Le roi s'entretint avec eux et, de tous les jeunes gens qui leur furent présentés, il n'en trouva aucun, comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Comme ces 4 amis se distinguent en étant les meilleurs de tous les jeunes Israélites qui ont reçu la formation de 3 ans, ils sont attachés à l'empereur en tant que conseillers personnels. Je continue. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Les mages sont des savants, des scribes sacrés qui écrivent et interprètent les livres de magie. Le mot pour magicien ne se trouve pas dans le livre de Daniel et signifie ceux qui soufflent, c'est-à-dire les exorcistes qui, par des formules incantatoires et conjuratrices, prononcées à demi-voix, prétendent éloigner les mauvais esprits. 10 fois supérieur est une expression idiomatique qui signifie « de beaucoup supérieur ». Ses amis prouvent leurs compétences dans leur cas, on le sait, est d'origine divine. Les mages et magiciens sont des hommes expérimentés dans leur art, et de plus, il faut qu'ils soient de fins philosophes afin de toujours plaire au roi. Ils savent comment dire oui et non en même temps et faire croire que leur réponse est un trait de génie. Mais Nabucodonosor ne s'y trompe pas, car il n'est pas tombé de la dernière pluie. Il est habitué à l'hypocrisie de ses conseillers, mais jusqu'à présent l'a acceptée parce qu'elle le flatte. Il va sans dire que cet homme, comme d'ailleurs tous les despotes, est un hypertrophie du moi. Cependant, quand il a vraiment besoin d'une réponse précise à une situation problématique qui se présente à lui, c'est Daniel et ses compagnons qu'il consulte et pas ses mignons de cour. Je finis de lire le premier chapitre. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. La première année de Cyrus est mentionnée parce que c'est la date de l'édit qui permit aux Juifs de revenir dans le pays en Palestine. On sait aussi que 2 ans plus tard, Daniel est toujours en vie. Or, il doit avoir entre 80 et 90 ans. C'est en 539 avant Jésus-Christ qu'un certain Gubaru, général de Cyrus, s'empare de Babylone. Il en devient le gouverneur sous le nom de Darius le Mède, avec le titre de roi des Chaldéens, tout en étant vassal de Cyrus, qui est alors le grand patron du Moyen-Orient. Mais au bout d'un an et 3 semaines, Gubaru mort. Alors, environ 1 mois après ce décès, et pour faire bon point, bonne mesure, Cyrus, qui est déjà empereur, prend aussi le titre de roi de Babylone. En fait, il veut mettre de l'ordre dans les affaires internes de la ville. En effet, l'élévation de son grand général Gubaru à la gouvernance d'une cité aussi prestigieuse a nourri sa vanité et lui est montée à la tête. À l'image du corbeau de la fable de La Fontaine, Gubaru, alias Darius le Mède, ne se sent plus et adopte un comportement insensé pour un simple vassal, en réclamant des prières pour lui seul, ce qui est raconté plus loin. Ceci expliquant peut-être cela, par cet acte d'orgueil, Gubaru s'est attaqué à Daniel et donc à Dieu, une grossière erreur qui l'a fait atterrir au cimetière. Pendant tout le temps de la captivité des Israélites à Babylone, Daniel et ses 3 amis restent très proches des commandes de l'État parce qu'ils surpassent en sagesse et en intelligence tous les mages du pays. À travers eux, l'Éternel se manifeste constamment. Les Babyloniens croyaient que leur divinité avait vaincu le Dieu des Hébreux, alors que dans les coulisses, c'est l'Éternel qui tue toutes les ficelles. Nous arrivons au chapitre 2 du livre de Daniel qui raconte le songe de Nabucodonosor, qui décrit les 4 grands empires qui se succèdent avant de faire place au royaume de Dieu. Ce même sujet est repris et développé dans une autre vision. On peut dire que le chapitre 2 est le fondement de la seconde partie du livre qui concerne l'histoire universelle et qui suit l'histoire de l'Empire babylonien. En effet, les révélations que Daniel reçoit par la suite sont dans le prolongement de ce chapitre 2. Le rêve du roi d'une statue qui est un alliage de différents métaux et de terre cuite, ainsi que la vision des 4 animaux et la prophétie des 7 ternes constituent ensemble le squelette de la prophétie biblique. Le discours de Jésus sur le mont des Oliviers et qui concerne la fin des temps est son fondement dans le livre de Daniel. Dans l'évangile selon Matthieu, on lit « Ses disciples s'approchèrent, prirent Jésus à part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le dessein, que celui qui lit comprenne. Aujourd'hui, nous vivons toujours dans ce qui s'appelle le temps des nations et qui a commencé quand Nabucodonosor a détruit Jérusalem et le Temple. Mais un jour, cette période de l'histoire prendra fin et alors ce sera au tour de Dieu d'imposer son règne sur terre. Il est intéressant de noter que ce n'est pas Daniel, mais un roi païen qui reçoit cette vision. Cependant, ce n'est pas la première fois que Dieu accorde une révélation à un non-israélite. Dieu a choisi Nabucodonosor pour être le premier grand roi des dictatures universelles qui se succède parce que c'est lui qui a mis fin au royaume de Juda et donc à la théocratie israélite. Par son intermédiaire, Dieu va faire connaître aux puissances de ce monde leur destin final. Et comment elles devront à leur tour, et pour toujours, faire place au règne de Dieu. Je commence de lire le chapitre 2. La seconde année du règne de Nabucodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Ce monarque devint roi en l'an 605 avant Jésus-Christ, mais selon la méthode babylonienne, de comté. Sa première année de règne est en 604 et la seconde en 603. Daniel et ses amis viennent tout juste de terminer leur étude quand survient cet incident. Le rêve était considéré comme une forme inférieure de révélation divine. Mais, dans les circonstances présentes, cette forme de révélation est un choix judicieux parce que les peuples païens en général, et les Chaldéens en particulier, attachaient au rêve une grande importance, leur attribuant un sens prémonitoire. Je continue. On ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins, les astrologues, pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Nabucodonosor a reçu une révélation extraordinaire, mais comme il n'en comprend pas le sens, elle est pour lui un sujet de grand trouble. Alors, en pleine nuit, il se met à aboyer en ordonnant qu'on fasse venir sur le champ les plus grands cerveaux du royaume, toutes les catégories de sages qui contient Babylone. Une liste impressionnante de spécialistes de la divination se présente et se met au garde à vous devant le roi. On a déjà rencontré les mages et les magiciens. Quant aux devins ou enchanteurs, on les trouve aussi en Égypte. Et au dire du prophète Ésaïe, ils foisonnent à Babylone. Les astrologues, littéralement les Chaldéens, sont des prêtres descendants des Akkadiens, les premiers habitants de la région. Comme tels, ils sont chargés des cultes religieux et ont priorité sur les autres mages. Pour cette raison, ce sont les Chaldéens qui parlent au nom de tous. Outre ces quatre classes, il en existe une cinquième, mentionnée plus loin, et aussi appelée mage. Ils président l'avenir et déterminent l'horoscope selon les mouvements des astres. Peut-être lisent-ils aussi dans les entrailles d'animaux. Ces cinq classes constituent le collège des sages, qui est dirigé par un chef, qui est un haut fonctionnaire de l'État, et du fait que la magie a une importance considérable à Babylone. Comme ces diverses classes se complètent l'une l'autre, Nabucodonosor les convoque toutes, et il est à parier que toutes répondent présentes, même si la cinquième n'est pas mentionnée dans le texte. Au grand mot, les grands remèdes. Le roi veut qu'on utilise tous les moyens occultes possibles et inimaginables pour découvrir le sens caché de son rêve. Et, dans le cas où il annoncerait des malheurs, il faut chercher à les détourner en rendant les dieux propices par des sacrifices et des prières. Comme chaque classe est seulement représentée par ses dirigeants, Daniel n'est pas présent. Je continue. Les astrologues dirent au roi en langue araméenne que le roi vive éternellement. Raconte ton rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. Ce n'est pas la première fois qu'on demande aux sages d'interpréter un rêve et ils sont persuadés qu'ensemble, ils pourront lui donner un sens qui satisfera le roi. À partir de la salutation, que le roi vive éternellement. Et jusqu'à la fin du chapitre 7, le texte est en araméen, aussi appelé syriaque, et qui est la langue officielle, diplomatique, administrative et commerciale des empires assyriens, babyloniens et perses. Elle utilise le même alphabet que l'hébreu, mais présente des différences avec lui. D'après les découvertes archéologiques, on sait aussi que le roi de Babylone a deux secrétaires, l'un pour les affaires qui doivent se traiter en araméen et l'autre pour celles qui doivent se traiter en langue assyro-babylonienne. Comme Israël n'existe plus en tant que nation théocratique, Dieu s'adresse au reste du monde en utilisant la langue internationale des païens. Voilà pourquoi Daniel utilise l'araméen pour les parties de l'ouvrage traitant particulièrement de l'histoire des empires contemporains, et l'hébreu pour les pages plutôt consacrées à l'avenir du peuple de Dieu et de son royaume. Je continue. Le roi répondit aux astrologues. Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me le révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Nabucodonosor n'est pas d'humeur à plaisanter. Alors il lance un gros pavé dans la mare. Alors que le souvenir de son rêve est encore bien ancré dans sa mémoire, il a la malice de ne pas le révéler. De cette façon, il va pouvoir évaluer les compétences de ses experts. Ce rêve l'ayant fortement troublé, il veut une interprétation qui soit vraie, franche et précise, sans détour et sans fourberie. Je continue. Il dit pour la seconde fois au roi, « Sa Majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. » Le roi rétorqua, « Je vois ce qui en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Réalisant qu'ils sont dans de sales draps, les mages cherchent à gagner du temps. Mais Nabucodonosor est vite agacé parce qu'il n'a aucune envie de s'amuser. En exigeant que ses experts lui racontent son rêve, il veut éviter de se faire berner comme d'habitude, car n'importe qui peut toujours donner n'importe quelle interprétation de n'importe quel rêve. Mais rien ne prouve que c'est la bonne. Je continue. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent, « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'un mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile, et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Les mages sont au pied du mur, mais se défendent en accusant le roi de ne pas être raisonnable en leur demandant de lui faire connaître son rêve et l'avenir, alors que seuls les dieux des cieux, en réalité l'Éternel, peut les lui révéler. Ce commentaire est une ambition à peine voilée que leur art divinatoire a ses limites et qu'ils trompent régulièrement le roi avec leurs augures et interprétations bidons. Cet aveu d'incompétence et de mauvaise foi dans l'exercice de leur emploi est surprenant de la part de ceux qui sont tenus en si haute estime à la cour. Mais en fait, ils n'ont pas d'autre choix, et c'est leur seul espoir de sauver leur peau. Je continue. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Nabucodonosor, qui est connu pour son tempérament violent, le manifeste dans tout son état. Il est tellement furieux qu'il lui faut un immense bain de sang pour calmer sa colère. L'ordre qu'il signe est cruel, mais il n'a rien d'extraordinaire, et il est banal de la plupart d'un despote oriental. Respirer le mortre est la façon de gouverner habituelle des rois de Babylone. Ce décret de mise à mort balaie large, car il ne concerne pas seulement les mages attachés à la cour, mais tous ceux qui leur sont associés d'une manière ou d'une autre, ce qui inclut aussi Daniel et ses amis. Je continue. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?» Alors Arioch lui exposa l'affaire. La sagesse de Daniel se manifeste partout, et donc aussi dans ses relations avec les personnes haut placées du royaume. Arioch doit avoir le plus grand respect pour Daniel, parce qu'au lieu de l'envoyer promener ou de lui couper la tête, et lui explique la situation. Je continue. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. On sait que Daniel a déjà eu des occasions d'interpréter des règles, ce qui lui vaut de jouir d'une notoriété supplémentaire à la cour et donc qui lui ouvre des portes. Mais même s'il a ses entrées au palais impérial, il ne peut pas se présenter en personne devant Nabucodonosor, mais doit obligatoirement passer par l'intermédiaire d'un porte-parole, peut-être le grand chambellan, comme cela se fait à chaque époque. Il n'empêche que Daniel ne manque pas de courage en demandant un délai parce que, justement, le roi reproche au mage de tergiverser afin de gagner du temps. Je continue. Puis, il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Le Dieu des cieux est une expression d'origine perse. Après le départ de la gloire de l'Éternel du temple de Jérusalem, ce que le prophète Ézéchiel décrit en détail, Dieu n'est plus localisé sur terre comme auparavant. L'interprétation que veut le roi est appelée un secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de le découvrir par la seule raison humaine. Le mot secret revient plusieurs fois dans ce chapitre. Son équivalent grec est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les desseins cachés de Dieu qu'il a révélés à ses prophètes et aux apôtres. Le récit admet que la requête de Daniel est acceptée par le roi, mais l'heure est grave, très grave même. Cependant, Daniel croit à une intervention divine à condition qu'elle soit implorée. Et pour donner plus de force à son intercession, il associe ses amis qui sont tous aussi concernés que lui. Il n'y a rien de tel qu'une menace pour orienter nos regards et nos supplications vers le Dieu des cieux.